franceinter.fr.
Bonjour à tous. Le Vendée Globe, à la simple évocation de cette course, il y a deux types de réactions et elles sont souvent quasi simultanées, le rêve et la peur. Le rêve de l'aventure, de la navigation pure, des passages de lieux mythiques et la peur aussi de la course en solitaire et donc du risque au minimum d'atteindre ses limites. Le Vendée Globe est l'épreuve ultime de la course au large et en solitaire. Plus de 40 000 km pour ceux qui ont un vocabulaire de terrien, soit plus de 21 000 milles nautiques pour ceux qui ont une culture marine. Dimanche prochain, 29 navigateurs, mais pas une seule femme pour cette 8e édition, 10 nationalités différentes, anciennes et nouvelles générations de skippers, s'élanceront donc pour ce périple en mer dont on dit bien souvent qu'il est la dernière véritable aventure de notre époque. Les meilleurs boucleront ce tour du monde en 3 mois environ. Les puristes diront aussi que le goût de l'aventure n'est plus aussi relevé depuis l'arrivée, le déferlement même de technologies à bord de ces bateaux. Mais l'aventure reste pour autant fascinante. Interception a embarqué sur le navire de l'un de ses participants, Thomas Ruyant, 35 ans. C'est son premier Vendée Globe, avec des rêves et des doutes plein la tête. Vendée Globe, à la mer comme à la mer, c'est un reportage de Jérôme Val, prise de son Benjamin Chauvin.
Interception, le magazine de la rédaction.
Nous sommes à Lorient, ici sur ce port, derrière nous, les imposantes cathédrales de béton, les vestiges de cette base de sous-marins datant de la Seconde Guerre mondiale. Et face à nous, les pontons où vont se préparer, où se préparent ces bateaux qui vont partir pour le Vendée Globe. Ici à Lorient, c'est un peu la Mecque hein, pour tous ceux qui rêvent de mer, d'évasion, de tour du monde. C'est un pôle reconnu partout en Europe de préparation à la course au large. Et on va aller découvrir le bateau de Thomas Ruyant. Il ne doit pas être très loin avec sa coque jaune et bleue. Et on va se préparer à aller découvrir une partie du golfe de Gascogne. Bonjour Thomas.
Bonjour, bienvenue à bord.
Merci beaucoup. Merci de nous accueillir sur ce très beau bateau.
Et ben c'est avec grand plaisir. C'est le bateau avec lequel je partirai dans quelques semaines sur le Vendée Globe. Voilà, ça va être mon premier.
Allez, on boucle.
C'est parti.
Le gilet de sauvetage.
Le moteur, et puis et on y va sortir du port et puis on y va.
Ok, c'est parti.
Étonnant ce bruit de moteur sur un bateau qui part pour un tour du monde à la voile, et bien pas tant que ça. Ces monocoques de course sont tous équipés d'un moteur utile pour sortir du port où les manœuvres sont parfois délicates. Mais une fois le Vendée Globe lancé, le moteur est plombé, c'est-à-dire neutralisé, interdit de s'en servir. Il ne pourra être remis en marche qu'en cas d'urgence absolue. Le destrier de Thomas Ruyant est équipé de 9 voiles, la grande voile, le spi, le génois ou encore le jenaker. Au total, 570 mètres carrés de surface maximale, mais elles sont rarement toutes déployées en même temps.
Voilà, ça. Là, on monte la voile.
Ça, faut savoir que c'est des manœuvres qu'on fait en équipage sur des arrivées, enfin, surtout sorties de port, du coup. Moi, en solo,
ce sera par étape.
Vous ne faites pas tous les jours en entier.
Mais non, parce que en fait, la grand voile hissée en grand, on le fait comme on sort du port. Après, quand on manipule la grand voile, on le fait bosse de riz par bosse de riz. Donc,
petit à petit, voilà. Et pas forcément étendu à chaque fois. Parce que
mon poussable de l'ONE, en partant, c'est pas moi qui serai la GV.
C'est l'équipe. Tu
peux vous assurer que c'est épuisant.
On est presque en haut.
Allez, c'est plus dur.
Allez, c'est parti.
Il reste quoi, 2-3 mètres là? C'est-à-dire qu'on a fait 22-23 mètres déjà.
Pour une manœuvre normale, c'est à peu près 3 quarts d'heure d'effort pour changer de voile.
En solo,
sur la,
hein.
Sur la colonne.
En solo.
En solo. On est où là? Ok, bon, je vais finir là, Jérôme.
Allez,
c'est bon, sûr?
Ah ouais.
6 mètres, les gars.
Première manœuvre. Épuisante.
La quille au vent, donc tout le plomb qui se trouve 4,50 m sous l'eau, on va l'emmener au vent pour stabiliser l'assiette du bateau, gagner en puissance.
Là ça y est, on a vu pour de vrai, plus de moteur.
Ça y est, on a la voile. C'est du bien que ça s'arrête le moteur. Hein. Alors, il y a 10 nœuds de vent, puis on a 9 nœuds 7 au près là. Pas mal, on voit la vitesse du vent.
Chez vous, j'allais dire,
c'est ça,
dans ce petit espace de vie,
c'est la zone de vie. Donc c'est un autre endroit dans le bateau où je vais passer pas mal de temps. Alors, le bateau est très grand, hein, parce qu'il fait 18 mètres 28, 60 pieds, sauf qu'à l'intérieur il y a vraiment un espace qui doit faire 7 mètres carrés à peu près.
Il faut tout avoir à portée de main en fait. Vous avez, voilà, évidemment, l'endroit stratégique, j'allais dire, la table à cartes.
C'est
électronique, ouais. Vous ne manipulez pas de cartes papier
Non. Alors on a des cartes papier à bord, parce que si tout l'électronique est en rideau, il nous faut les moyens pour se repérer. Donc on a des GPS portables, de la carte papier, mais sinon ce qu'on va utiliser sur l'ensemble du tour du monde, et on a aussi du secours si jamais ça tombe en panne de toute façon, c'est de la cartographie électronique. Voilà, donc à cette table à cartes, il y a donc cet ordinateur qui me permet de faire la navigation, on a le radar, on a une commande de pilote aussi. Les contrôleurs de charge pour les batteries, on a.
Et puis les moyens de communiquer aussi, parce qu'en fait.
Voilà, exactement. On a la prise de son, on a les téléphones Iridium. Il faut savoir que c'est des courses maintenant qui sont extrêmement médiatiques, et du coup, on a des obligations d'envoi d'images, de vidéos, mais aussi on doit pouvoir faire du live. On doit pouvoir nous appeler et être en live vidéo à bord du bateau. On doit pouvoir changer les caméras, donc avoir des vues intérieures, extérieures, voilà. Donc, être un peu, voilà, vidéaste, monteur.
Alors après, il y a les choses plus basiques, hein. La cuisine, c'est quoi? C'est un réchaud et un évier, hein, c'est tout, hein. C'est sommaire, basique, mais l'essentiel est là.
Voilà, c'est un peu camping, donc on a la bouilloire qui, pour le coup, là, c'est une bouilloire qui est pas facile à trouver, puisque c'est une bouilloire avec un grand couvercle. Comme ça, je peux faire des plats sous vide au bain-marie. Et donc c'est une bouilloire que j'ai mis un peu de temps à trouver. Et sinon, on a un deuxième petit réchaud très rapide. Après, la cuisine est spartiate, mais malgré tout, on mange bien à bord. Enfin, on essaye en tout cas de soigner cette partie-là. Et ça permet de se couper un petit peu de la course et de ce qui se passe sur le bateau et autour. Un peu comme écouter de la musique ou lire un bouquin. Manger, ça fait aussi partie, moi, de ces petits moments qui sont importants.
Et
la nourriture, enjeu vital pour une course qui va durer 3 mois. Et ça, c'est la responsabilité de Marine Vio, chargée de la logistique. Elle a préparé la valise de vêtements du skipper, sa pharmacie pour les blessures et les maux du quotidien, et donc l'avitaillement.
Bah là, je prépare un petit sachet de graines. Ce sera une ration quotidienne. J'ai acheté du vrac, je pèse la nourriture et je vais la mettre sous vide.
Dans ce domaine si important, la jeune femme est dans une précision presque scientifique.
Là, pour des choses à grignoter, par exemple, ça va être à peu près 70 grammes par jour de graines ou de fruits secs. Ça lui permet d'équilibrer sa journée sur le plan énergétique. Après un effort, il peut attaquer un sachet et puis il peut le mettre dans sa poche. C'est facile à avoir sous la main. Il faut imaginer partir avec 3 mois de nourriture. Donc c'est quand même long, 90 jours matin, midi et soir. Donc c'est sûr qu'il faut trouver un équilibre entre le plaisir et le poids. Parce qu'on est quand même sur un projet qui part pour de la performance, donc ça, faut pas l'oublier. Donc on a une partie de sachets lyophilisés. Alors ici, on a tous les snacks. Lyophilisés, c'est ça.
Donc, c'est pas très appétissant à première vue, mais...
c'est de la poudre dans laquelle on rajoute de l'eau. Et après, on a des plats, ce qu'on appelle apertisés, qui sont comme des plats traiteurs mis sous vide.
Évidemment, il y a aussi un aspect médical, j'allais dire. Il faut un apport calorique bien étudié, ouais, en fonction des températures, en fonction des zones où on se trouve.
Voilà, donc là, par exemple, on voit que j'ai un petit tableau qui a toutes les doses quotidiennes. Donc,
on a les zones chaudes. Là, on voit froid, ouais, chaud, et tempéré, froid. Voilà. J'imagine qu'on sera dans les zones sud, près de l'Antarctique.
Là où il y a le gros du travail, c'est vraiment de rationner tous les jours. Parce que l'idée, c'est qu'il ne se retrouve pas à la fin du Vendée Globe avec un gros manque de sucre, par exemple, s'il a mangé tous ses chocolats, etc. Donc on rationne vraiment tout. On a par exemple des fruits secs rationnés en dose quotidienne. Comme ça, il ouvre son sac de nourriture et il sait ce qu'il doit manger dans la journée. Parce qu'il y a aussi la difficulté de s'alimenter correctement. Des fois, ils oublient de manger. Donc il sait à la fin de la journée, s'il lui reste des trucs dans son sac, c'est qu'il n'a pas mangé assez. Donc ça permet de faire des repères pour ça, en fait.
Petite question, je ne vois pas la bouteille de champagne qu'il va déboucher le 31 décembre au soir, puisqu'il sera en mer. Ah, elle est là, elle est là.
Il y a ça, il y a le petit pot de foie gras qui aura peut-être fondu et qui se sera resolidifié d'ici le sud. Donc c'est sûr que c'est un peu particulier aussi pour ces choses-là, parce qu'il faut imaginer qu'il n'y a pas de frigo, rien à bord. Donc ça passe quand même par des phases où il va passer par l'équateur, où il va faire plus de 30 degrés dans le bateau. Donc ça, ça compte aussi dans la mise en forme des produits.
L'autre partie importante, alors là ça se trouve derrière nous, c'est la partie, on va dire, pharmacie.
Oui. Alors, en fait, il a vraiment une pharmacie complète. Il a de quoi. Il y a un kit de suture, par exemple, pour pouvoir se suturer seul. Il a des médicaments très forts pour la douleur. Il a des attelles. Il aura de quoi se faire une perfusion. Il a appris, lui, à faire ça pendant ses stages de formation. Et donc, l'idée, c'est qu'il est vraiment de tout. Et il a aussi, évidemment, le courant en cas de coup de déshydratation, estomac.
Des gélules, des.
Il y a des crèmes pour s'il a des brûlures, des choses comme ça. Il y a une petite couverture de survie, des bandages, un livret médical pour pouvoir s'auto-analyser. En fait, ça lui permet, de quand il va être en contact avec le docteur de la course, de faire un diagnostic d'approche.
Donc on le voit effectivement s'il y a besoin de se faire des sutures. Alors, il y a même l'amputation, donc là on est quand même sur la prise en charge d'une amputation, donc c'est quand même c'est les cas un peu extrêmes, on va dire. Ouais. Mais ça arrive, on a des anecdotes devenues célèbres, Bertrand de Broc qui se recoue la langue lui-même, on a quand même aussi des choses qui peuvent arriver, tout peut arriver à bord. Ouais. Après cet instant cuisine et alimentation, je ne vois pas la chambre.
Il y a plein de chambres en fait. Il y a plein d'endroits pour pouvoir dormir. On a deux petits sièges de veille qui sont à l'extérieur dans le cockpit. Donc là, ce sera un endroit que je vais plutôt utiliser quand les conditions sont un peu dures et si je veux intervenir rapidement sur les écoutes, sur la marche du bateau. J'ai un accès direct au winch. Après, j'ai un siège baquet à l'intérieur juste devant la table à cartes qui va me permettre de m'allonger et puis de trouver le sommeil et de faire des petites siestes. Et après j'ai un gros pouf d'extérieur en fait dans le bateau, et ça je peux le mettre un peu partout et ça me permet de dormir un peu comme je peux, de trouver un endroit où le pouf se cale bien pour pouvoir dormir. C'est vrai que là l'espace est pas très grand, en tout cas la cellule de vie est pas très grande, il y a souvent beaucoup de matériel. Et on a à peu près entre 600 et 800 kg de matériel embarqué sur le tour du monde, entre les voiles, les sacs de nourriture, le matériel pour réparer le bateau, la pharmacie, les fringues, tout ça. Donc tout ce matériel-là encombre aussi un petit peu le bateau. Voilà, donc on essaye de trouver un peu comme on peut. Et là, pour le coup, le pouf, c'est l'arme fatale pour bien dormir et trouver le bon endroit.
Là, on s'enfonce dans les entrailles du bateau. Après, la cellule de vie, là, c'est l'avant du bateau pour stocker le matériel et notamment les voiles. Les sacs de voiles qui font à peu près 70 kg chacun. Et là, quand on s'enfonce, là, il faut se baisser. Hein. C'est pas très très haut.
6, c'est quoi? C'est le canal de cour?
Ouais.
Et alors, toujours ce bruit, hein. Voilà ce bruit permanent. Et là, on est tapissé de noir. En fait, ça n'a pas été peint en blanc pour que ça soit plus agréable. Là, c'est le noir parce que c'est vraiment juste un lieu de stockage. Le matériel avec une trappe quand même de survie pour pouvoir s'extraire du bateau si besoin, assez rapidement. On peut même y passer la tête. Et voilà. On est quasiment au ras de l'eau. Voilà pour cette visite rapide du bateau parce que c'est pas très grand.
Alors il y a une chose qui nous marque quand on rentre dans cet espace de vie, voilà, c'est le bruit. En permanence, c'est ce choc des vagues contre la coque. On imagine avec un vent plus fort la caisse de résonance que ça peut être. Même si on est en mer, hors de toute activité humaine, il n'y a aucun moment de silence.
Non, c'est très très rare les moments de silence, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de vent du tout, que le bateau soit à l'arrêt sur une mer d'huile. Je ne souhaite pas que ça m'arrive, parce que le but aussi de la stratégie et sur une course comme ça, c'est de ne pas tomber dans des endroits comme ça. Mais oui, c'est des vraies caisses de résonance, c'est un bateau qui est complètement carbone. C'est un sandwich, donc il y a quelques feuilles de carbone, un peu de mousse et de nouveau quelques feuilles de carbone. Donc ça fait que quelques millimètres en fait, hein, qui me séparent de l'eau. Donc c'est vrai que le moindre petit clapotis, on l'entend. Donc pour ça, quand vraiment le bruit commence à être usant, j'ai un petit casque anti-bruit, voilà, qui me permet de m'isoler un peu de ce bruit. Après, le son du bateau est important parce que sur 3 mois et même sur des quelques jours de navigation, on s'habitue à ces bruits-là. Et après, quand quelque chose ne va pas ou quand il y a un problème sur le bateau, on le sent. Ou même quand le bateau est mal réglé, quand il tape mal dans une vague, par exemple, c'est des choses qu'on ressent. Et donc voilà, là c'est le moment d'intervenir, de régler le bateau. Ou, voilà. Et c'est vrai que par exemple l'année dernière, en 2015, j'ai eu un problème avec ma quille. Et c'est le son ma quille qui m'a alerté, qui était un peu différent de d'habitude, qui m'a permis de découvrir le problème. Donc le casque anti-bruit, faut pas le mettre trop souvent. Quoi.
Ça peut taper sur les nerfs quand même au bout d'un moment, non?
Bah c'est vrai, surtout à vitesse élevée. On peut avoir le bateau qui siffle un peu, il y a des bruits différents en fonction des allures, de la vitesse du bateau, donc c'est vrai qu'il faut. Voilà, ça peut être un peu stressant parfois, surtout quand il y a des bruits, enfin il y a des grincements, il y a le bruit de l'eau sur la coque, il y a le sifflement de la quille, il y a le sifflement du vent, il y a les bastacs aussi qui peuvent vibrer et rentrer en résonance. Donc il y a vraiment beaucoup de sons auxquels il faut s'habituer et qui peuvent à la longue, c'est vrai, être un peu usant. Ouais.
Oui, il y a l'exiguïté, il y a, j'imagine, aussi l'humidité.
On est dans un univers humide et salé, donc c'est encore pire. Quoi. Mais on essaye justement en amont et en préparation avec toute l'équipe technique d'avoir un bateau qui soit très très sec, pas avoir ces problèmes d'humidité, mais bon, elle est de toute manière toujours présente, et c'est vrai que quand on a des affaires mouillées, elles sont, voilà, elles mettent du temps, ça met du temps à sécher, quoi. On n'est pas tout le temps en ciré en bottes. On est en ciré en bottes au moment des manœuvres, parce qu'il faut aller sur le pont à l'avant, et là, en général, il y a pas mal d'eau. C'est des bateaux qui mouillent beaucoup, hein, dès qu'on arrive à 15 nœuds de vitesse, ce qui arrive assez fréquemment avec ces bateaux-là, on est assez vite sous l'eau.
Sur ces courses si exigeantes, il faut oublier les cycles de sommeil longs. Un marin du Vendée Globe dort en moyenne moins de 6 heures par jour, mais un sommeil très fractionné. Cela va des micro-siestes de quelques secondes à des périodes d'assoupissement plus longues de 15 à 20 minutes, voire plus d'une heure si les conditions météo le permettent.
Là, Thomas, vous avez deux barres. En fait, c'est la même, mais vous avez deux positions pour barrer, pour diriger votre bateau. Mais en fait, vous passez très peu de temps, contrairement à ce qu'on peut croire, vous êtes très peu de temps à la barre du bateau.
Bah non, parce que c'est vrai que c'est des gros bateaux, et en solo, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc les barres, elles sont là pour sentir le bateau, pour avoir un peu de feeling quand même avec la machine. Pour les phases de manœuvre aussi, parfois. Sinon, 95% du temps, c'est un pilote automatique qui barre. Pendant que nous mettons à la manœuvre, pendant qu'on règle et pendant qu'on, voilà, qu'on vit à bord, tout simplement. Donc on a aujourd'hui des pilotes qui sont très efficaces. Hein. Là, on leur demande de suivre un cap, ils vont pas bouger d'un iota, ils vont suivre le cap. On peut aussi les régler en mode vent. Donc on leur donne un angle par rapport au vent. Et donc si le vent tourne, bah, le bateau va tourner avec le vent, tout simplement.
Donc le pilote, en fait, vous avez deux écrans pour le diriger.
Deux à l'extérieur, un à l'intérieur. Et puis j'ai aussi un pilote de secours, au cas où celui-là tombe en panne.
Et alors, petite nouveauté, vous avez également une commande de pilote à votre poignet, ce qui vous donne une autonomie encore plus grande, j'imagine, voilà, dans les manœuvres.
Voilà, pour le coup, elle est toujours autour de mon bras. Il y a 6 boutons, stop, auto, donc pour le mettre en route. Et puis, je peux incrémenter les degrés par 10 ou par 1 degré. Où je me trouve dans le bateau, j'ai une main sur le pilotage.
Élément aussi de sécurité si, dans le cas extrême, vous tombez à l'eau.
C'est un élément de sécurité. Si je tombe à l'eau, le pilote poussera la barre, mettra la barre dans le coin, donc ça arrêtera. Sachant qu'un bateau, ça dérive toujours au moins à 3-4 nœuds, donc à la nage, c'est compliqué de le rejoindre. Donc c'est bien, ça arrête le bateau, mais dans tous les cas, il ne faut pas tomber, quoi. Voilà, ça c'est la première règle. Même si on a la télécommande autour du poignet, il ne faut pas se retrouver à la patouille.
Et la première règle, quand on est à bord du bateau, c'est de s'accrocher. Dès que vous sortez en fait de ce cockpit, de ce petit espace, vous vous accrochez.
Ouais, exactement, c'est vrai que dans le cockpit ici, je suis pas accroché parce que c'est un cocon assez fermé. Par contre, dès que je me déplace sur le pont, même quand il n'y a pas beaucoup de vent, je m'accroche.
Ça vous est arrivé une situation où vous avez passé à deux doigts de la catastrophe?
Non, je sais que ça peut arriver, mais voilà, j'essaye d'être prudent et même accroché. De toute façon, on essaye de marcher à pas de chat, d'avoir toujours une main sur le bateau. Voilà. Faire les choses sans précipitation pour que ça fonctionne. On a des machines qui sont lourdes à gérer, du coup l'erreur on va la payer ou physiquement ou par de la casse. Donc je pense que c'est vraiment un gain de temps de prendre son temps, de vraiment prendre le temps de décomposer les manœuvres avant, de faire les bons choix, de pas se précipiter, d'être sûr que tout est ok avant de dérouler, hisser une voile, manœuvrer.
C'est comment dire de plus, c'est pas un lieu réservé à l'être humain. On est toléré ici, mais on n'est pas vraiment souhaité, quoi. Le vent est toujours plus fort que les prévisions quasiment. La mer est croisée, mais là il y a une houle tout le temps qui est très impressionnante, quoi, hein.
Thank you.
cherche Laurent.
Je sais pas s'il est là. Lolo ?
Ouais ?
Si, il est en bas, il est à l'intérieur.
On va aller voir alors, merci.
Je m'appelle Laurent Bourguès et je suis le boat captain du bateau Le Souffle du Nord.
Boat captain, ça veut dire vous êtes le second en fait?
C'est un poste qui regroupe en fait plusieurs choses. C'est second, responsable technique, directeur technique, un peu comme on l'entend. Voilà.
Et vous êtes aussi ami de Thomas Ruan, ça aide pour préparer une telle aventure?
Oui, alors ça aide. C'est vrai qu'on s'était posé la question, on s'est dit bon, est-ce que c'est, on se connaît bien, en fait on a commencé à faire nos mini ensemble, donc ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. Et bon, bah, travailler ensemble sur un projet engagé comme ça, est-ce que ça va être un plus, est-ce que ça va être un moins? En fait, ça peut être un moins si on se cache les choses, si on se dit pas les choses. On s'est dit qu'on se dirait les choses. Et voilà, on se connaît bien. Moi, je connais bien le bateau. Est-ce que c'est d'être skipper aussi pour l'avoir été avant aujourd'hui? Il y a une entente qui passe bien.
On se dit, nous, qui sommes un peu extérieurs à tout ça, il faut être un peu, je ne sais pas si le mot est fort, mais un peu fou pour se lancer dans un pari comme ça. Thomas, il est un peu fou, un peu barré.
Alors au fond de lui, je sais pas, hein, je suis pas dans sa tête. Ce que j'en connais pour le côtoyer depuis pas mal d'années, c'est que en mer, il a ce côté compétiteur et qui pousse vraiment à aller à fond. Et je pense que c'est ça qui l'anime aujourd'hui sur un projet comme ça. Après, ça va être le grand saut pour lui. Hein, il va découvrir ce que c'est d'être 3 mois en mer. Pour l'instant, il l'a jamais fait autour du monde, dans le sud, etc. Tout ça, c'est encore des questionnements qui se posent et puis des espèces de trac. Hein. Je pense que beaucoup de coureurs qui participent pour la première fois au Vendée Globe, c'est des questions qu'on se pose. C'est pas un fou, c'est pas un barré. Mais je pense que pour la plupart des skippers aujourd'hui, des vrais fous furieux, il y en a plus complètement. On s'encadre beaucoup, c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille en équipe, avec des gens qui connaissent le métier. La sécurité a énormément évolué. C'est plus, je pense, comme il y a 15 ans ou 20 ans, on savait pas où on allait, ils allaient dans les glaces. Aujourd'hui, ils vont plus dans les glaces. Il y a quand même ce côté complètement barré qui est moins présent qu'avant. Après, il faut quand même passer 3 mois en mer, seul. Et puis, c'est des machines extrêmement exigeantes. Thomas, il va mener le bateau à fond. Et ça, pour le faire pendant 3 mois, il faut être un peu fêlé. Il faut pouvoir s'infliger des choses physiques assez fortes.
T'as un bout pour faire un autre tirant ?
Thomas Ruan, est-ce que vous connaissez Donald Cronhurst ?
Oui, peut-être. C'est peut-être un des tout premiers à avoir voulu tourner autour du monde et qui est resté en Atlantique à faire des rondes.
C'est un Britannique qui a participé à la Golden Globe Race.
J'ai lu le bouquin, un très très bon bouquin d'ailleurs, écrit par Isabelle Autissier, qui résume son histoire.
Effectivement, il a participé à un premier tour du monde organisé à la fin des années 60 et il a inventé en fait son tour du monde. Il n'a jamais fait ce tour du monde. Il a inventé un faux journal de bord. Il a sombré dans la folie. Il a fini, on ne sait pas comment, mais en tout cas, il a disparu en mer.
C'est extrêmement triste. Hein. Enfin,
il y a une phrase que je voudrais vous lire, qu'on a retrouvée dans son journal de bord.
D'accord.
La navigation en solitaire a ceci de particulier qu'elle exerce une pression très forte sur l'homme, dont elle révèle les faiblesses comme peu d'autres activités. Vous êtes d'accord avec lui ? C'est à la mer qu'on
est seul avec soi-même, donc on peut pas tricher. De toute façon, c'est pas possible, quoi. Et ça, c'est la grosse différence avec la navigation en équipage, d'ailleurs. Quand ça gaze, c'est grâce à nous. Et puis quand ça part en vrille, c'est notre faute aussi. Donc voilà, c'est un sport où on ne peut pas tricher. Et c'est vrai que l'histoire de ce navigateur, elle est triste parce qu'à un moment donné, il se rend compte qu'il peut pas le faire. Du coup, il s'invente un tour du monde fictif. Puis d'ailleurs, ça se termine, c'est dramatique la fin.
Puisqu'il disparaît effectivement en mer. Voilà, et on ne l'a jamais retrouvé. Mais dans un tour du monde qui va durer 3 mois, vous savez, vous avez des faiblesses, vous n'êtes pas l'homme parfait. Vous savez que ça va être ça aussi qui va être ressortir peut-être dans les difficultés.
De toute façon, les limites, on pense à chaque fois les connaître et les repousser. Mais je pense que là, sur le tour du monde, alors moi, le maximum que j'ai fait en mer, c'est 25 jours. Là, je vais partir 3 mois, donc évidemment que je ne sais pas exactement comment je réagirai dans toutes les situations et au bout de 2-3 mois, comment je vais être avec mon bateau, déjà, est-ce que je vais arriver jusqu'au bout ? Enfin, y a quand même plein d'interrogations. Moi, c'est beaucoup de premières fois, en fait, ce tour du monde. Y a plein de choses que je vais découvrir. L'Indien, je ne connais pas. Le Pacifique, je ne connais pas. Et moi, je ne me connais pas après plus de 25 jours en mer. Donc, il y a quand même des pleins d'inconnus dans cette course pour moi. Même si on a des retours d'expérience sur, Parce qu'on n'est plus des défricheurs d'océan aussi, hein, aujourd'hui. On va plus à la découverte, hein, on n'est plus des aventuriers au sens noble du terme. On ne découvre rien du tout. Il y a plein de marins qui sont passés là avant nous. Même si on n'a pas non plus tant que ça, mais on n'est plus des moitessiers, quoi.
C'est une épreuve aussi, forcément il y aura du danger, qui est aujourd'hui plus ou moins maîtrisé. Il y a effectivement des règles de sécurité très strictes pour vous encadrer, on vous envoie pas non plus sans aucune limite. Néanmoins, cette notion du danger, vous en avez conscience jusqu'à quel point ?
C'est un parcours extrême, c'est des bateaux qui sont extrêmes. Malgré tout, on a quand même des outils à bord qui nous permettent de parer normalement à un maximum d'éventualités. Alors le risque zéro, il n'existe pas. D'ailleurs, l'histoire de la course nous le rappelle, hein, qu'il y a déjà eu des drames, mais je pense pas à cette peur-là, à ces éventualités-là, quoi. Je suis concentré sur mon défi et ce que j'ai envie de réaliser avec ce tour du monde, mais il n'y a pas de peur de partir. Je sais qu'il y a un danger certain, mais il n'y a pas de peur réelle.
Alors vous n'avez pas peur, mais comment vous... Est-ce qu'il faut rassurer vos proches, votre compagne, vos parents?
Oui, alors par contre, oui, je pense qu'il y a plus d'appréhension de la part de mon entourage que ça vient pas forcément de moi en fait. C'est un peu tabou aussi, je pense, dans ce milieu de la course au large. On dit pas trop ça, quoi. Est-ce qu'on a peur ou pas peur? Non, on dit qu'on a pas peur. Enfin, je sais pas, en fait, on dit rien, quoi. On dit ni l'un ni l'autre. C'est pareil, on dit pas que c'est difficile ou que c'est dur ou qu'on vraiment on se fait mal, quoi. Ou on le dit pas trop, quoi. On sait, c'est sous-entendu, mais. Alors qu'on se fait vraiment mal. Ça, je peux vous l'assurer. Surtout sur ces bateaux-là. Et voilà, c'est pareil, la peur, je pense qu'on n'en parle pas trop, mais il y en a un petit peu. Ouais. Un peu d'appréhension, ouais.
Bonjour, je suis Anne-Laure, la compagne de Thomas Rouillon. Bien sûr, il y a de l'inquiétude. Après, si j'étais à sa place, c'est sûr que je voudrais faire le Vendée Globe, forcément. Donc, je comprends aussi son attrait pour la course. Je le soutiens et puis j'essaye de pas trop penser à ce qu'il attend pour le moment. Je ferai au fur et à mesure et puis voilà. On a choisi aussi d'être avec ce type de personne, donc. Des fois, on le subit un peu, forcément, mais là, c'est une grande aventure, j'essaye de le prendre du bon côté, même si je sais que 3 mois, ça va être long et qu'il y aura des moments difficiles, hein, forcément. Mais c'est aussi une aventure de vivre ça, et puis ça génère aussi des moments dans une vie qui sont assez sympathiques et forts, qu'on n'aurait pas forcément avec un quotidien classique, entre guillemets, parce que...
C'est sûr qu'on est loin de la routine, là.
Voilà, ça me plaît bien.
Comment vous allez le vivre, ce Vendée Globe? Est-ce que vous êtes instauré des rites, chaque matin, aller voir sur l'ordinateur, de le suivre tout au long de la journée? Est-ce qu'il y aura des rites, un petit peu?
J'ai pas trop réfléchi encore à ça, mais c'est sûr que quand il est en mer sur une course en solitaire, je suis un peu pendu à l'ordinateur, hein. Moi, je travaille derrière un ordinateur, donc j'ai du mal à ne pas cliquer sur la cartographie régulièrement pour aller voir... si tout va bien, si la vitesse est la bonne, la direction aussi. J'ai rien prédéfini à l'avance.
Est-ce que vous avez prévu quand même des petites surprises vous allez lui donner avant le départ
Je lui ai demandé s'il avait la place d'embarquer une boîte à chaussures et je vais la remplir. Je ne sais pas encore exactement avec quoi.
Ça sera vraiment la surprise.
Ce sera la surprise.
Et vis-à-vis de votre enfant, qui est petit, c'est compliqué à gérer aussi ce genre d'éloignement, expliquer que papa fait un tour du monde, ou au contraire ça donne lieu justement à ce que vous disiez, des échanges peu ordinaires avec un enfant.
Là je sais pas du tout comment ça va se passer. Il a 3 ans et demi. L'année dernière on a eu un petit mois sans le papa à la maison. Et ça a été, il se rend pas encore trop compte de la durée et du temps qui s'écoule. Après, on met en place des petites choses. Pour le moment, il est au courant de rien. On ne lui explique pas forcément, mais le moment venu, oui. Après, moi, je lui fais suivre en fait le parcours sur un grand planisphère. Et puis, on colle des gommettes et on fait avancer le bateau et on voit le chemin qui reste à parcourir, qui se réduit.
Il sera incollable en géographie.
Voilà.
Thank you.
qu'on voit là-bas? Le Cap Horn. Le Cap Horn désiré. On aurait pu nous mettre du soleil, mais c'est pas grave, le soleil est dans les têtes. Ça y est, nous passons enfin ce joli caillou. Et nous allons rentrer dans quelques instants dans l'Atlantique.
Maruyan, là nous sommes à l'extérieur du bateau, mais abrités par un espèce de haut vent, ce qu'on appelle le cockpit. Sur ce tour du monde, il y a des noms comme ça, les 40e rugissants, les 50e hurlants, le Cap Horn. Ça vous fait rêver ou ça vous fait peur?
Bon, c'est un peu des deux en fait. Ça fait rêver, ça nous titille, ça me donne envie d'y aller voir quoi. En même temps, il y a de l'appréhension parce qu'on a les récits aussi. Hein. On a du retour d'expérience de tous ces endroits et on sait que c'est. Ça va pas être. J'y vais pas du tout la fleur au fusil, loin de là. Ça peut être compliqué, on sait qu'on peut avoir de la casse, et entre de l'appréhension et puis de l'envie d'aller voir et de connaître ces endroits-là, et puis aussi, aussi de la fierté. Hein, c'est aussi ça hein, que j'ai. Voilà, que j'ai
de se dire on l'a fait.
De se dire on l'a fait, bien sûr, c'est important.
Vous imaginez un peu ces moments-là où ça reste quand même inimaginable et vous serez confronté à la réalité le jour où vous y serez vraiment?
Non, mais on a des petites idées. On sait que c'est des décharges d'émotions de toute façon à tour du monde, aussi bien le départ, l'arrivée, et puis ces passages mythiques. C'est aussi pour ça que je fais de la voile. Il y a ces instants de grâce dont je parlais tout à l'heure, mais il y a aussi les arrivées de course, des points mythiques comme le Cap Horn. Je connais pas, donc je vous dirai à l'arrivée comment ça s'est passé, mais je pense que c'est des grands moments parce que le Cap Horn il est mythique par son cap, mais c'est parce qu'avant on a traversé l'Indien, on a traversé le Pacifique. Et c'est aussi, on commence à remettre le clignotant pour rentrer à la maison. Donc c'est pour tout ça que c'est un cap important. Ouais.
En attendant, nous, on glisse tranquillement. Voilà. Et effectivement, ces petits moments de plaisir, on les ressent aussi.
Voilà, bon là, c'est pas les allures les plus marrantes avec le bateau, même si c'est agréable parce qu'on est en mer, il fait beau. Et c'est vrai que là aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de vent, mais c'est vraiment des vraies luges de carbone. Et ces instants de grâce-là, ça va un peu plus vite quand même qu'aujourd'hui.
Nous avons laissé l'Orient et l'océan Atlantique derrière nous. Nous sommes maintenant à Dunkerque, au bord de la mer du Nord. À Dunkerque, c'est la ville natale de Thomas Ruyant. Nous nous trouvons précisément à la base nautique de la Licorne, à Lefrancouc. C'est à côté de Dunkerque. C'est ici que Thomas Ruyant a appris à naviguer tardivement, vers l'âge de 17 ans, après 10 ans passés sur les patinoires au hockey sur glace. Et c'est avec son père qui possédait un petit bateau que le futur marin professionnel a parcouru ses premiers milles nautiques. Bonjour.
Bonjour. Rémi Ruyant, papa de Thomas, qui va bientôt partir pour le Vendée Globe. Mon père faisait déjà de la voile, il nous a donné le goût. Et puis moi j'avais un bateau, donc on a commencé par l'optimisme, on avait un laser, c'était une distraction comme une autre pour nous. Et c'est un plan d'eau qui est sympa parce qu'il y a toujours du vent. C'est rare qu'on ait pétole, donc il y a toujours moyen de s'entraîner. Il y a toujours, ça te donne toujours envie. Hein.
Il n'avait pas de rêve de tour du monde quand il était gamin?
Non, pas du tout. Non, on était les premiers étonnés. Même encore maintenant, je pense qu'au fond de lui, il a certainement des envies de partir avec Anne-Laure et Basile. Je ne serais pas étonné qu'un jour il nous annonce que
ils prennent le large
avec la famille, oui.
Qu'est-ce que vous ressentez, Rémi Ruyant, à l'aube de cette aventure pour lui?
J'allais dire de la fierté, mais non, c'est pas le bon mot. Beaucoup de bonheur de le voir réussir. Je pense que c'est l'aboutissement d'un marin de son âge. Donc je suis très très content. Après, on n'en parle pas trop.
Pourquoi ?
Bah parce qu'il y a des craintes quand même, hein. C'est pas ces trois mois. C'est l'océan Indien, c'est voilà quoi, il y a le Cap Horn, enfin bon, il y a des risques, hein, c'est pas une balade quoi. Donc on sera mieux dans trois mois.
Vous savez ce que vous lui direz le dimanche 6 novembre ?
Merde, je crois. Un regard, c'est peut-être déjà ben, bien.
On sent ému quand même.
Oui, c'est pas tous les jours évident, je trouve. Il y a un peu de crainte de ce qui peut arriver. Il ne faut pas le cacher non plus. Hein.
Beaucoup de marins qui ont fait ce Vendée Globe disent qu'ils ont changé, qu'ils ont été transformés par cette aventure. Vous, vous attendez à voir votre fils changer, à voir votre fils transformé ?
Je ne sais pas, parce qu'on l'a vu changer beaucoup après les transats, les mini-transats. Moi, je l'ai trouvé changé, beaucoup plus posé, calme. Prenant des décisions avec plus de recul peut-être et là je pense qu'il est bien, il est bien là comme il est. En tout cas au fond de lui ça sera ancré, hein. C'est exceptionnel quoi. Je pense qu'il le vit pleinement. On peut pas rêver plus, je crois, tous les marins. Et le nombre de marins de compétiteurs qui rêvent de faire un Vendée Globe, il y en a beaucoup quoi qui sont à la porte, qui peuvent pas. Donc ils sont quand même qu'une trentaine, tout pays confondu, qui fait partie de cela. Sans le mettre sur un piédestal, c'est quand même bon, il fait partie des 30 meilleurs marins, si on peut dire, de la course au large. Donc c'est quand même et puis c'est compliqué pour arriver à faire cette course financièrement, les sponsors, la manière dont c'est fait. Et là je crois que le projet du Soufflet du Nord, imagine, ça lui va bien. Ça colle bien au bonhomme, quoi.
Le Soufflet du Nord, projet Imagine, c'est une ONG qui apparaît sur la coque et les voiles du bateau. Aucune marque, aucun nom de banque ou d'assurance. Et pourtant, un tour du monde représente un investissement financier lourd. 2 600 000 euros pour le projet de Thomas Ruyant. Un budget modeste par rapport à d'autres mastodontes. Le nordiste a derrière lui 160 partenaires et presque un millier de donateurs particuliers, tous issus de la région des Hauts-de-France. Un réseau que coordonne Sylvain Desremaux, chef de projet pour ce Soufflet du Nord.
Lorsque, en 2015, début 2015, on a commencé à réfléchir à ce projet, on se disait, l'ambition, c'est de réussir à embarquer 150, 200 entreprises et plein de particuliers pour pouvoir nous aider sur un projet sportif et solidaire régional.
Nous ne sommes pas loin de cette entreprise Bleu Marine, qui est une entreprise un peu historique, hein, de ce port de commerce, du plateau sur lequel nous nous trouvons. En quoi elle a aidé ? Ce sont des petits gestes qui ont aidé Thomas Ruyant à boucler son projet.
Oui, et puis là on est à Dunkerque, effectivement, dans les entreprises de Dunkerque, c'est Bleu Marine, c'est une entreprise importante pour nous, parce que c'est une des entreprises qui nous a, dès le début, accueillis. C'est une entreprise qui a fait un petit geste cette année, par exemple. En général, elle faisait des petits annuaires de marée qu'elle distribuait à ses clients. Bah, cette année, elle a décidé de les vendre 2 euros en se disant, bah voilà, c'est notre part qu'on met pour le projet et puis on reversera le fruit de cette vente, ce qui s'est passé d'ailleurs il y a quelques mois.
Et vous le disiez aussi, il y a les entreprises, le tissu économique et puis les particuliers, il y en a un petit peu moins d'un millier. Pareil, des habitants peut-être qui n'ont jamais mis le pied sur un bateau, mais qui, voilà, c'est quelques pièces, quelques billets pour participer un peu au rêve.
C'est ça. Alors nous, on a un terme, on dit que ce sont nos supporters. Voilà, on a nos mécènes d'entreprise, puis nos mécènes particuliers qui sont nos supporters, à qui on a dit la même chose. On a dit, voilà, si vous voulez participer à l'aventure, avoir un petit bout de vous sur ce bateau et nous aider dans les deux aspects du projet, hein, l'aspect sportif et solidaire, bah venez, vous donnez ce que vous voulez, puis vous faites partie du projet. Le fait de proposer à ses mécènes, ses supporters, de participer à un projet en se mettant totalement en retrait en termes de visibilité, en offrant l'ensemble de la visibilité à une association qui nous tient à cœur, hein, le projet Imagine, c'est effectivement inédit. Parce que dans le monde du mécénat, en général, il y a toujours au minimum une mention sur un logo, sur quelque chose comme ça. Là, effectivement, on leur dit, eh ben, on vous propose de nous aider, de contribuer à ce projet, de le vivre de l'intérieur, sans avoir de visibilité. C'est pas pour ça que vous allez le faire, et c'est pas ce qui va nous vous apporter le plus.
Aucun sponsor. Pourtant, il faut de l'argent pour faire un tour du monde, pour préparer ce projet sur plusieurs années. Ce sont des millions d'euros qui sont en jeu. Donc, vous avez des partenaires, mais aucun n'est inscrit sur votre bateau, sur vos voiles.
C'est un choix ou comment ça s'est fait? Comment vous avez un peu inventé, entre guillemets, ce projet?
Ouais, alors c'était un choix au départ de faire un projet qui ait des valeurs derrière. C'était important pour nous. Pour résumer, on a aujourd'hui 160 partenaires, donc ça fait beaucoup de monde. C'est un gros collectif derrière, c'est des entreprises du Nord, donc c'est un bateau régional. Et puis, au lieu d'avoir 150 logos dans une voile, eh ben, on a choisi de mettre une ONG en avant, qui s'appelle le Projet Imagine, et qui est un média philanthropique, en fait. Ils font des films sur des personnes qui sont porteurs d'associations, ou en tout cas qui consacrent leur vie aux autres. Donc il y a des valeurs qui sont fortes derrière cette ONG. Et c'est une ONG qui avait besoin de ce coup projecteur que peut donner une course comme le Vendée Globe. Et on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait que des banques ou des assurances. Une ONG avec des valeurs comme ça pouvait aussi avoir leur place. Et donc diffuser ce message-là autour de la planète, ça nous semblait aussi important.
5, 4, 3, 2, 1, top départ. C'est un bon départ, un bon départ. Ouais, leader, c'est un bon départ.
Vendée Globe, à la mer comme à la mer, c'était un reportage de Jérôme Val qui vous fera suivre toute la compétition dans les éditions de France Inter. Prise de son assurée en deux temps, d'abord sur la terre ferme par Thomas Robin et en mer par Benjamin Chauvin dans des conditions acrobatiques et disons-le parfois presque héroïques. Un grand merci à lui. Cette émission a été mixée par Philippe Thibault, réalisée par Anne Lioro, assistée de Stéphane Combe et Zora Ben Smaili. Dans un instant, c'est le journal de 10h sur France Inter. Bon dimanche.